Et maintenant, on va passer, on va rester dans la subtilité en parlant des blockbusters coréens qui étaient présentés au FFCP en commençant. Allez, par Azura.
Ah
de Kim Song-soo.
Saoura, les aristocrates.
Alors, qui veut résumer le film?
Moi, je veux bien, moi.
Marc.
Moi, je veux bien parce que c'est un film qui apparemment a l'air d'être détesté par à peu près tout le monde autour de cette audience-là, mais que
non,
moi, j'ai bien marré.
On s'est bien marré. Je sais pas si c'est grand terme, on s'est bien marré.
Oui, voilà, c'est là le problème. Alors, qu'est-ce que Azura? Azura, c'est un film qui s'inspire. Pas, finalement pas tant que ça des films hongkongais des années 80, mais plus de l'esprit comics complètement barré et complètement excessif, style Sin City. Et en fait, ça parle d'une ville fictive qui est complètement corrompue et dans laquelle un maire fait vie de la pègre et essaye à plein de malfrats qui sont sous sa mainmise pour faire perdurer son pouvoir. Et face à ce maire corrompu, il y a un flic dont le cœur balance entre est-ce que je reste flic honnête ou alors est-ce que moi aussi je vais finalement travailler pour ce maire corrompu et devenir son homme de main.
Pas beaucoup. Hein.
plus que tu ne le crois. Et
parce qu'il est pris au piège par le procureur.
Encore à l'autre extrémité, il y a un procureur qui veut faire tomber le maire corrompu. Mais le procureur est-il plus ou moins corrompu que le maire? C'est là toute la question. Alors là, c'est le canevas du film. Et il se trouve qu'en fait, le flic qui, donc, entre le maire corrompu et le l'avocat ou le procureur qui est peut-être qu'on peut corrompre, son cœur balance. Et il se trouve que ça va être un film complètement énergique, complètement bourrin, avec des scènes de violence complètement gratuites. Des mises en scène complètement bâclées.
Je crois que t'allais défendre le film.
Un jeu d'acteur qu'on peut résumer entre un mélange entre Mel Gibson dans Laser Weapon et Chow Yun-fat dans les films de John Woo. Ce qui est hallucinant, c'est que le type, genre, il a une seule expression faciale. Mais en fait, ça passe bien, quoi.
Non,
parce que...
non,
mais parce qu'en fait, le film est tellement excessif, il y a tellement de scènes d'action.
Hystérique.
Dès la première scène du film, c'est complètement what the fuck, parce que t'as une scène où ils sont sur le toit d'un immeuble, où ils commencent à se frapper entre flics et à frapper un jeune toxicomane.
Sans raison.
Qui sert sans raison.
Ils sont donnés sans raison, oui.
Et le film, en fait.
Et de manière complètement incohérente par rapport à ce qu'ils veulent faire, d'ailleurs.
Voilà. J'ai toujours pas compris la première scène.
Ce qui fait que le film là, c'est une sorte de violence gratuite sur un film complètement excessif. Et le truc, c'est qu'on peut le voir, nous, d'un côté un petit peu parodique en disant c'est excellent, c'est super drôle. Tout se passe bien, c'est jouissif. Genre, on va regarder le film, on va choper un Big Mac après, on va collecter des cartes de joueurs de NBA, quoi. Tu vois, genre, début des années 90. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça.
Et on va bouffer le gobelet après.
Voilà, et sauf.
En verre.
Et sauf que le réalisateur est au premier degré. Qu'on a interviewé, et on lui a justement posé la question pour savoir, on était avec Martin.
C'était pas si clair sa réponse, je trouvais. Il a du mal
à définir la parodie.
Lui, ce qu'il disait, c'est que c'était pas une parodie et qu'il était vraiment au premier degré pour dénoncer la société corrompue coréenne.
Est-ce
une satire de la corruption généralisée
sur la limite,
alors c'est toujours la délicate frontière entre pastiche, parodie, satire,
navet.
Non mais navet en plus, le film n'est pas navet, c'est bien produit, c'est bien photographié. Les acteurs ont trois expressions, mais bon, ils les tiennent. Mais quand même, il faut les faire, ils sont pas endormis sur le plateau par exemple. Le film a presque un côté fascinant dans ses excès, mais c'est rapidement fatigant, quoi. Et surtout, les personnages sont tellement dans l'hystérie que bon, on s'en fiche, quoi. Oui, c'est incohérent. Enfin, la première scène où ils se battent, on comprend pas pourquoi.
Non, mais c'est très compliqué de suivre le développement du personnage, en fait.
Et surtout son ami. Son ami qui devient l'assistant du maire, on comprend pas pourquoi il pète les plombs.
Il y a trois personnages en un. Il change complètement.
Ah oui, je me focalise en fait.
Et puis on revient à quelques différences sur les dernières parties.
Je me focalise sur le personnage principal.
Alors, Elvire.
J'essaie de focaliser sur le personnage principal et je n'ai absolument pas compris l'évolution du personnage. L'interview m'a rassuré et même le Q&A m'a rassuré à la fin de la séance, comme quoi tout, quasiment tout avait été improvisé. Donc je suis rassurée. Il n'y a pas eu de travail du tout sur le personnage. Et c'est normal si on ne comprend rien à ses réactions.
Parce que l'acteur lui-même ne comprenait pas.
Parce que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait, en fait.
Martin.
Bon, déjà, il faudrait faire un rapide bilan de qui est Kim Song-soo. Kim Song-soo, en gros, c'est un réalisateur à succès qui a commencé dans le milieu des années 90 avec des films pour Jeunes Rebelles, tu vois.
Ah ouais, c'est... Non, mais c'est une vraie question. C'est vraiment
un
réalisateur à succès, en fait.
Ah oui, ça non, mais Beat, c'était... Enfin, le
mec...
Oui,
Beat,
mais
à part Beat.
Oui, ça, c'est
ça. En gros, c'est un mec qui, au départ, voulait faire des films générationnels, mais qui n'a fait que des films à la mode. C'est-à-dire, faire, en gros, et c'est un type qui ne peut pas s'empêcher de pomper à droite à gauche.
Avec 10 ans de retard.
Avec 10 ans de retard, et qui, en plus, n'a aucun point de vue. Donc, au final, t'as des films qui, au bout de 5 ans, sont complètement datés, ridicules.
5 ans, t'es sympa.
Oui,
mais déjà, quand ils sortent, ils sont datés, quoi.
Oui, voilà. Donc, voilà. Et.
Vous pandémie.
Bon, voilà. Et quand Marc disait que bon, ça rappelait Sin City, mais Sin City, c'est exactement ça. Sin City, c'est un mauvais pastiche de roman policier.
C'est pour ça que Azura vieillira bien. C'est qu'en fait, il est déjà dépassé.
Il vieillira bien une soirée bille de la cinématique.
En fait, on se dira, mais en fait, ouais, c'est carrément génial parce que le type, il est complètement over the top.
Non, mais alors, là, je crois que Sin City n'était pas un mauvais pastiche non plus.
Ah, si, si,
si. Ça fonctionne une demi-heure et après.
Je parle pas du film, du propos de Frank Miller quand il a commencé à écrire le comics Sin City, qui était de pousser à son paroxysme le hard boil. Et c'est vrai que on
il
est
fait
dans
sous Mickey Spillan, quoi.
Non, c'est... mais on va pas faire un débat sur Sin City.
Non, mais voilà.
Non, mais c'est très proche justement d'Azura, parce que Azura pousse les codes du polar hard boil. À la mode, donc c'est exactement ça. La narration, notamment. Dès la voix off du personnage principal au début, c'est un truc qu'on retrouve
d'ailleurs la voix
dans
off,
tous les romans.
La voix off, il y a des fois elle apparaît comme ça, qu'on l'a pas entendu pendant 40 minutes.
Oui, c'est pour relancer l'histoire.
Notamment à la fin du film.
Le mec a rajouté ça au montage. Bon, là il y a un trou un peu d'air.
Allez,
bouton voix off.
C'est pareil. Ah tiens, si on mettait la musique de The Wire,
si on mettait la musique arabisante, je reste sur cette musique arabisante, je sais pas ce qu'elle vient foutre là.
Alors, non, mais on peut dire que c'est vraiment navrant comme film.
Mais je pense qu'il vieillira bien.
Le rôle, ça a été quand même la réaction des spectateurs. Voilà, c'était le bon moment de Azura. C'était le post-Azura. C'est nos deux séances, c'était les petits cris.
Faut expliquer pourquoi, peut-être.
De jouissance de la part du public féminin.
Sans boule de geisha.
On sait pas, t'as vérifié. Qu'est-ce que t'en fais,
spectatrice, hein. Non, mais c'était en fait la sensation de cette édition. Je pense que de toutes les éditions du FFCP, nous n'avons jamais vu autant d'émoi dans une salle, autant d'hystérie. Autant de fans transis, oui, et de salles occupées.
Je te disais, est-ce que le FFCP a déjà reçu un acteur
Kim Min-seok,
de cette trempe-là,
même s'il
n'est
pas justement Kim Min-seok,
jeune, beau, qui a commencé par Melkina.
Il est plus si jeune,
quand même. Enfin, non, mais...
40 ans. Oui, mais c'est vrai que...
Non, mais 40 ans, c'est jeune.
Mais ça, c'était le bon côté de ce film, c'était de voir les spectatrices fébriles.
C'était un peu
ce qui
chante quand même.
Sur lui à la fin.
Et ça explique pourquoi les deux séances, d'ailleurs,
étaient complètes.
Mais c'est simple. S'il n'était pas venu, je ne suis pas sûre qu'elles auraient été complètes, les séances.
Non. Alors, je pense qu'on a un peu tout dit sur...
Non, la scène du verre.
La scène du verre, la scène de la cigarette.
Juste pour conclure, rejoindre un peu, parce que... Pour rejoindre un peu Marc, c'est vrai que ce genre de film est tellement... Dans la direction qu'ils prennent, on peut se marrer parce que c'est toujours tellement débile parfois, le scénario est complètement n'importe quoi que soit tu, dès le départ, un peu comme Martin, tu dis bon, c'est complètement nul, je déteste, je vais pas aimer.
Film de merde. Le début est pas mal, voilà. Je trouve.
Non.
Le premier plan sur la ville.
Le début, c'est
assez incroyable. Non, moi j'ai l'impression de retrouver le Kulu hongkongais des années 80 qui est glauque.
Mais lui, il aime bien les plans aériens. Sur Pandémie, c'est pareil, t'as le même plan.
Les Coréens adorent les plans aériens.
Voilà, le seul beau plan du film, c'est le plan de tout le charnier là. Mais
on tient quand même un personnage principal qui s'est fait défigurer toutes les 3 secondes et qui a juste un petit pansement.
Ah, mais ça, c'est le côté droppiste.
Dans ce que je voulais dire, c'est que.
Ça va moins loin que Sin City.
Le film aurait pu s'en sentir, en fait, dans ce côté un peu n'importe quoi, avec jusqu'au boutiste. Sauf qu'il est mou, quoi. Enfin, je veux dire, la mise en scène, la scène de fin, c'est interminable.
La scène d'action n'est pas extrêmement réussie à la fin, alors que c'est un gros carnage.
Voilà, ça aurait pu être un carnage jouissif, quoi.
Alors que tout le monde est déjà mort.
Aucune intensité, il n'y a aucune action.
Parce que je pense qu'on a déjà tout vécu avant, quoi.
Donc, bah, je vais dire aussi, quoi. C'est que le réalisateur.
Kim
Song-soo sur vraiment sur la vague de thriller qui dénonce la corruption et tout ça. Et cette année, on a eu quand même un autre film qui était sur ce thème-là, qui était Inside Man, qui était autrement plus subtil, plus intéressant, avec des vrais personnages. Avec Lee Byung-hun, qui était vraiment au summum de son charisme. Oui, et quand tu vois à souvent après, tu tires un peu la gueule, quand même. Hein.
C'est pas faux, ça.
Quelqu'un pour résumer le Inside Man?
Ah, mais c'est difficile encore.
C'est bien.
C'est difficile.
Alors, Inside Man, on suit en fait trois hommes, dont le personnage de Lee, justement, qui croit avoir dans sa poche un allié, un ami toujours. Et toute l'histoire tourne sur des petites trahisons et de comment en fait ce héros va essayer de rétablir sa petite justice.
Anti-héros.
Hein?
Anti-héros plutôt.
Anti-héros, parce que c'est quand même un gangster, c'est pas un gentil. Mais justement, on s'attache en fait à cet anti-héros et j'étais bluffée par l'interprétation, par personnage. Alors, de ce que j'en ai compris des échanges avec un peu tout le monde, c'est qu'on avait une version réduite, que dans la version longue, ce personnage est beaucoup plus étoffé.
Oui, parce que...
Mais je trouvais déjà dans la version courte vraiment un magnétisme.
La version courte dure 2h10.
Voilà,
la version longue dure 3h.
Voilà. En fait, c'est ce qu'on va expliquer ceux qui ont vu la version longue, c'est qu'il y a, on ressent dans le film, le personnage a un côté cinéphile, c'est-à-dire que tout son plan, il le met en scène en parlant comme un réalisateur de cinéma, quoi, en parlant de scènes de film, de personnages et tout. Et en fait, cette partie-là, en fait, cette préparation avec la cinéphilie et tout ça, c'est beaucoup plus, encore plus poussé dans la version longue, en fait.
Et notamment, il a une profession, une profession légale, c'est-à-dire qu'il est agent de star, de petite starlette pour de la K-pop, c'est vachement mis plus en avant et on comprend mieux un peu ses relations en bon terme avec ces jeunes femmes. Et pas en fait, comme si c'était un mec. Au contraire, même enfin un moment il va dans une maison d'officiel amener certaines jeunes femmes pour des soirées piquantes il dit qu'en réalité il veut pas faire ça. Il s'est dit je suis pas un mec, je traite pas les femmes de cette façon. Et tu vois qu'il y a quand même, même si c'est reste un gangster qui peut avoir des méthodes un peu fortes, en réalité, il a quand même une forme de code moral, on va dire. Il a certaines limites, en gros. Et,
un respect des femmes.
Voilà.
Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est qu'on a l'habitude de voir Lee Byung-hun comme le personnage un peu classe ou un peu...
Il est classe,
il est classe d'une autre manière. C'est-à-dire que tu vois la première scène, il arrive, c'est une scène, un flash forward, tu vois, il est super classe, costume et tout, il va faire une conférence de presse. Et tu dis, ouais, en fait, ça va être un personnage un peu... Quand tu connais pas du tout de quoi va parler le film, ça va être un personnage vraiment classe. Moi, je savais même pas qui est incarné dans le film, au final. Et au final, paf, tu reviens dans le passé, là, tu vois que c'est...
Limite, le mec se retrouve dans les chiottes.
C'est un gangster, et c'est un gangster, mais au final, il est un peu bouffon, tu vois. Il est un peu au milieu de l'échelle, quoi. C'est pas un personnage, il sait pas se battre, par exemple, ou des trucs comme ça, quoi. Et je trouve vraiment qu'il apporte, ça apporte vraiment une complexité au personnage qui est plutôt intéressante. Et Lee Byung-hun, justement.
Il est très dominant dans le film, même quand il est dans les chiottes, la manière dont
Mais justement, ça. Mais des fois, c'est.
Il est dans les chiottes quand même.
Oui, mais voilà. Domine la chieuse.
Mais c'est ça, en fait, c'est les deux trucs quoi, qui sont au sein de la même scène.
Et ce que je trouve passionnant, justement, par rapport à ce personnage, je trouve que vraiment, dans un thriller et une histoire de vengeance, c'est qu'il ne réussit pas à chaque fois,
non.
Ces petites
voilà,
vengeances. C'est qu'en fait, il galère et on le voit galérer. Mais... Et que ce n'est pas, en fait, un héros qui va réussir du premier coup. C'est de voir, en fait, ce que ça pourrait être dans la vraie vie. D'un mec qui se dit, tiens, j'ai un super plan, je vais y aller, et puis en fait, je me viande. Et ça, c'est quand même un
et
peu...
Et puis, il y a des plumes,
Kefrénin.
Moi, j'ai des réserves sur le film, mais je dois quand même avouer qu'il y a deux scènes de combat, et c'est de bonnes scènes, et notamment la scène avec Lee Jun-ho, où il l'attaque chez lui, qui est hyper bien, il y a un peu d'ombre.
Elle est bien, parce qu'on arrive à... On arrive, voilà, c'est pas une scène super chorégraphiée au final. Et
ben si, en fait,
mais elle est très chorégraphiée, mais elle te donne l'impression que c'est pas chorégraphié.
Voilà, parce qu'il y a un jeu avec le fait qu'il n'y a pas de main, etc.
Et c'est intéressant.
C'est une scène super intéressante.
Alors, on va rester dans les blockbusters en parlant du film d'ouverture qui était Tunnel de Kim Seong-han, donc le réalisateur de Hard Days qui était sorti. Hardé, il y avait qu'un seul mauvais jour effectivement dans le film, mais ça suffisait. C'était un très très mauvais jour. Et donc, il était sorti l'année dernière. Tunnel a trouvé un distributeur, je crois que c'est version originale Condor qui va le sortir en mai prochain. Donc là, pareil, comme pour les autres films, pas trop de spoilers. Mais néanmoins, on peut résumer le film assez facilement, Kefren.
Mais en fait, c'est un homme.
En une phrase.
C'est un homme qui va traverser dans un tunnel, le tunnel s'effondre, va-t-il vivre?
Va-t-il s'en sortir? Va-t-il et au bout de combien de temps?
Au bout de 2h, 20 minutes.
Voilà. Faut rappeler que Victor est le seul qui n'a pas apprécié le film.
Oui.
Défendez le film.
Moi j'ai bien aimé déjà parce que le film, contrairement... J'ai eu une discussion avec Victor après, et justement, contrairement à ce qu'on croit, Il y a un jeu avec la culpabilité dans le film, et c'est notamment le personnage de Baeduna qui porte ce glissement de la culpabilité. À chaque fois qu'elle apparaît dans le film, c'est pour désigner un coupable, et jusqu'au moment où ça se retourne contre elle. Mais il y a un glissement de la culpabilité, et c'est ce qui est intéressant, en même temps que de savoir s'il va vivre ou pas. Bon, ça,
ouais. Une des problématiques du film, donc il faut le dire, c'est de savoir ce que coûte à la société le fait de sauver un individu par rapport aux intérêts économiques que peut avoir des sociétés par ailleurs.
Le personnage de Biden est plus intéressant sur ce point-là parce que...
Donc c'est sa femme.
Oui, et c'est la femme du mec coincé dans le tunnel. Juste parce que justement, elle vient à chaque fois questionner c'est de qui cela est la faute, juste au moment où ça se retourne contre elle, mais elle vient à chaque fois questionner comme ça. Et le film n'est pas aussi manichéen et avec des grosses ficelles ou hollywoodien, comme je le disais justement.
Non, merci, t'as évoqué mon point de vue. C'est bien.
Moi, je suis plus réservée à leur bonne interprétation, bien sûr, etc. C'est juste d'un point de vue scénaristique, je n'ai pas du tout été surprise. Alors, effectivement, comme le dit Kefren, le personnage de Baeduna est très intéressant. Et ce qu'elle vit est d'autant plus troublant. Mais je voyais venir, c'était cousu comme du fil blanc, l'issue de ce film. Et donc, j'ai pas été emportée, j'ai pas été émue. Et c'est un bon film efficace, mais il n'y a que Baeduna qui m'a porté en fait dans ce film-là. Et je ne me suis pas vraiment intéressée au sort de l'homme, parce que pour moi, il était
en été
jeté. Quoi.
Alors, pour défendre un peu le film, Martin.
Le sort étant jeté, je l'ai spoilé, mais bon, on est dans un film coréen, on aurait pu s'attendre à un autre dénouement. Mais bon voilà, après moi ce que j'aime bien c'est ce cinéaste en tout cas c'est il vient de la comédie et en tout cas il arrive toujours à intégrer une forme de légèreté dans son propos à des bons moments mais sans jamais être lourd et ça c'est très très fort.
Déjà ça dans
Hard Day. Autant dans Hard Day tu comprends que tu peux arriver à jouer un peu facilement de ce côté là et puis il y a un côté un peu cartoonesque, hein. Le final d'Hard Day c'était vraiment
mais y compris la première heure d'Hard Day, beaucoup plus surprenant dans ses rebondissements.
De toute façon, vu la situation, il y a peu d'issues de secours, il y en a même qu'une, si tu veux.
Et elle est prête à se fonder, donc.
Voilà, mais après, c'est savoir s'ils vont la prendre ou pas, la bonne issue de secours.
Anthony, tu as aimé le film aussi?
Alors, je ne veux pas dire que j'ai aimé, j'ai apprécié le film. Parce que c'est bien fait, c'est globalement bien rythmé, c'est bien interprété. Après, voilà, c'est pas fondamentalement surprenant. Mais comme disait Martin, ce qui est plutôt réussi, c'est les moments où le film bascule d'un genre à l'autre, ou essaie de contourner les clichés. Moi, j'ai adoré, par exemple, le personnage du chien, qui est l'antithèse totale du chien qu'on doit absolument sauver dans les blockbusters américains, où là, le chien vient plus perturber le déroulement du film qu'autre chose.
Il mange le gâteau du personnage, mais sinon il est quand même sauvé, le chien, je spoil.
On peut pas dans la dernière séquence.
Il fait caca et tout, et ça chiant.
Ouais, quand même, attends, il y a les odeurs, ils doivent manger les croquettes du chien, etc. Non, mais voilà, le film se laisse suivre, ça manque un peu d'audace, on connaît à peu près le dénouement, mais il y a quelques séquences qui fonctionnent. C'est vrai que j'aurais préféré que le film reste centré sur le héros masculin coincé dans sa voiture, que tous les allers-retours...
On n'a pas vu Balduna.
Bah oui, mais moi, contrairement à Célia, je trouve que son personnage est un peu sous-développé. Ah, il a mérité d'être beaucoup plus présent.
Et puis après, je trouve que voilà, il y a cet aspect effectivement très blockbuster, assez lisse, mais malgré tout, il y a quand même un propos, voilà, vis-à-vis du cynisme de la société, qui va d'une part chiffrer la vie de cet homme, voilà, ce que ça lui coûte, vis-à-vis des journalistes aussi, qui veulent absolument faire du sensationnalisme, voilà. Et
c'est un petit peu caricatural.
C'est très caricatural.
Oui et non, parce que le film est vraiment un très bon miroir de la catastrophe du ferry Sewol, où les médias ont été manipulés par le gouvernement pour donner certaines informations à certains moments. Ah, je crois que Célia n'est pas fondamentalement d'accord avec... Non, elle n'est pas du tout d'accord.
Alors, certes, mais...
Donc on va couper.
Non, mais pour être dans le film, les médias sont résumés à un journaliste qui est absolument horrible et qui veut...
Non, mais justement...
Qui connaît rien, qui veut faire de l'audience, voilà, qui s'intéresse à
aujourd'hui. Tu te rappelles pas toutes les
BFM TV.
Il y a plein d'autres journalistes.
Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même relativement caricatural et réducteur par rapport...
Non, si c'est lui qui est présent dans le film, c'est justement parce que c'est le seul qui ne suit pas les règles des autres. Et c'est pour ça qu'on le voit, c'est parce que c'est lui qui ose aller faire du plus loin que son rôle de journaliste.
Oui, mais au final, c'est ce qu'on retient de l'image des médias que renvoie le film.
Bah c'est ce que les gens retiennent de l'image des médias, de toute façon.
Moi, je pense plutôt à la scène des drones, avec tous les journalistes et leurs petits drones, ça a un côté un petit peu ridicule,
Ils envoient des drones dans le tunnel pour suivre le drone principal.
J'ai pas vu le film, mais ça a l'air de pas mal ressembler au le gouffre chimère de Billy Wilder.
En moins cynique, curieusement.
Pour rebondir à la remarque de Anthony, justement, beaucoup de personnes réfèrent sur la tragédie du ferry Sewol de 2014, mais ce film est adapté d'un roman, donc antérieur à cette tragédie. Donc, qu'on y voit un parallèle parce que véritablement le traumatisme de cette tragédie est encore très prégnant. Mais moi, j'ai plus en mémoire en fait une tragédie qui est du même genre, mais qui était en 92. Où plus de 300 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un département de store, le Sampung département de store. Donc il avait été évoqué justement la qualité des bâtiments, de la corruption, des pots de vin, et qu'on n'a pas utilisé des bons matériaux, et puis du coup plus de 300 personnes étaient mortes comme ça. Donc moi, ça m'évoque plus ça.
Là c'est juste aussi un individu face à la société, et c'est 3 minutes dans le film, le côté utilisation de matériaux déficients. Et moi je m'attendais vraiment, alors c'était aussi un peu vendu comme ça, comme un film assez politique, finalement, et assez à charge. Et au final, c'est juste un divertissement assez lambda. C'est pour ça que j'ai été un peu déçu aussi.
C'est un divertissement, mais qui a quand même certaines... qui a un dossier ouvert.
Moi, je voulais qu'il meure quand même à John Woo à la fin.
Mais tu es un sadique, Kefren. Mais tout le monde meurt à la fin.
Non, parce que...
On ne sait pas s'il meurt, d'ailleurs. On aura la réponse en mai prochain.
Oui, non, parce qu'au moment dans le film, il y a un exposé comme ça de politicien, et il commence à chiffrer, il dit que oui, ça coûte cher de le garder en vie. Et moi, du point de vue de la politique, effectivement, ça coûte cher de le garder en vie. Et surtout, quand on fait le parallèle, souvent, on vous dit...
Non, mais c'est parce que tu prends un
libéralisme
économique. Non, parce que dans le film, à un moment, ils demandent à Chasse-Neige, on leur dit « Ouais, mais il y a des gens qui sont morts à cause de la neige et vous pouvez pas en
regarder. » Non, il y a quand même un personnage qui essaye, qui est le chef des personnes en charge d'essayer de le sauver, et on suit son point de vue, et on est toujours de son côté, en fait, face aux politiques Odelsou. Et face aux sociétés. Donc,
mais Odelsou est toujours bon.
J'étais avec la ministre à un moment, je me suis dit.
Non, mais ça, c'est une déformation bizarre quand même.
Non, ça va.
Et on va passer au dernier blockbuster donc du FFCP. C'est un film très attendu, The Edge of Shadow de Kim Ji-woon, qui veut présenter son scénario aussi assez complexe et aussi à tiroir. Anthony,
vous êtes sûr?
Mais oui, tu résumes très bien.
De manière objective.
De manière objective, eh ben, il y a un début, un milieu, une fin, et le début est très bien, et après moins.
Oh, le milieu est vraiment pas mal. La fin est quand même.
Non, vraiment pas. Sorti de la première séquence que j'ai trouvé vraiment fun, bien filmé, rythmé, le reste ça sort pas très bon dans l'histoire. En fait, je sais plus. J'ai vraiment.
Ça raconte de résistants coréens sous l'occupation japonaise dans les années 30. Qui décide de se liguer et de combattre l'occupant japonais. Et pour cela, il décide de créer une sorte d'armée ou de gouvernement fantoche, et qui pour cela doit être délocalisé en partie au Japon, peut-être
en Chine. Tu vois que t'as oublié le film aussi.
Tu sais, c'est la troisième fois qu'on voit un film qui
non, mais c'est pas le gouvernement provisoire à Shanghai.
C'est un piège de résumer ce film.
Non, mais ceci
dure quand même 1h20.
Oui, c'est bien. Effectivement, c'est à Shanghai, mais ceci dit, c'est parce que la résistance coréenne, de facto, s'est délocalisée à la fois au Japon et en Chine. Donc, voilà.
Non, mais ce qu'il faut préciser déjà, c'est que c'est le personnage de Song Kang-ho qui est très important.
Ça, c'est vrai.
Parce que, donc, de lui, de base.
Oui, d'habitude.
Non mais tout. Mais c'est avec son point de vue au départ que commence le film. Et lui, c'est pas du tout un résistant. C'est un ancien résistant puisqu'il a fait partie justement des premiers groupes à Shanghai avant de rentrer dans la police
impériale.
Voilà.
Il interprète donc voilà. Il interprète un résistant. Un résistant. Voilà. Du coup, grâce à ses talents, il a trouvé un emploi bien payé
dans la police coréenne et au Japon quoi. Ouais. Et donc, c'est à partir de là que lui, qui donc ses supérieurs japonais doutent, enfin, on a l'impression qu'il doute encore de sa loyauté, l'envoie en mission justement pour déterrer ce groupe de résistants dont l'un des personnages est interprété par Gong Yoo, l'une des trois autres stars du film. Et à partir de là, justement, tout le point de vue. C'est pour ça que cette exposition que vous trouvez longue, moi je trouve intéressante,
c'est pas long, ça dure 1h20. J'ai regardé ma montre, oui. La scène de train commence au bout d'une heure vingt.
Oui, mais c'est toute la première partie pour moi que je trouve passionnante, c'est justement de voir ce personnage de Song Kang-ho entre les deux camps et ne pas savoir vraiment ce qu'il veut au final. On sait pas, moi pendant tout le film, à un moment je me suis dit, mais en fait il est en train de les manipuler, de les piéger, de les tomber dans le piège. Je me meurs pas du tout en fait. C'est juste que ce qui est intéressant justement, c'est un personnage, il sait pas où se situer. Et nous on est un peu comme lui au départ, on sait pas où se situer, mais
au départ. Voilà.
Et qui donne tout le sens au titre original, Espion Mil Jong. Hein.
Et donc,
statue de Song Kang-ho dans ce film.
Voilà. Et donc, alors après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le récit est pas foncièrement original. On a déjà eu pelleté de films sur ce thème-là avec on a Assassination l'année dernière par exemple. Sauf que lui était vraiment porté sur l'action pure, alors que même s'il y a de l'action dans le Kim Ji-moon, c'est vraiment un pur film d'espionnage de base. Et Là où le film est vraiment intéressant, c'est que Kim Ji-woon, qu'on a connu avec des histoires beaucoup plus débridées, beaucoup plus coréennes, entre guillemets, dans l'exaltation de la violence ou des trucs comme ça.
Quand il tourne avec Schwarzenegger.
ce film n'existe pas. C'est quel film? Il a été annulé de toutes les bases. Ça n'existe pas, ce film. Je ne peux pas en parler.
C'est bien le dernier rempart.
C'est mieux qu'il
y ait Je ne déteste pas.
Oh là là, c'est long.
Non, mais le Kim Ji-woon est bien.
Mais donc, ce que je voulais en dire, c'est que là, pour la première fois, peut-être, il a un récit plutôt sobre, mais clair, c'est-à-dire qu'il arrive à le tenir jusqu'au bout, à ne jamais perdre, même s'il y a beaucoup de personnages, on n'est jamais perdu dans le récit, c'est ce qui est déjà bien, parce qu'il y en a eu des pelletés, des films avec beaucoup de personnages, on ne parlera pas de The Unjust de Ryo Seung-won, qui me plaît absolument à ce niveau-là, mais, par exemple, mais du coup, là, il en profite pour vraiment... nous offrir des scènes d'espionnage de de folie, quoi. Enfin, dans la mise en scène, c'est juste incroyable, la séquence du train. J'en reparle et je vais en reparler pendant je sais pas combien d'années, mais il arrive à te créer.
Dans, dans la critique qu'on peut lire.
On arrive pendant une scène qui doit durer au moins 30 minutes, ouais, et, qui est la scène centrale du film. Il passe par je sais pas combien de genres différents et avec une fluidité incroyable, quoi. Et
non, mais c'est vrai que cette scène est d'une maestria.
La scène de Beuvry au studio aussi.
Oui, mais il y en a plein.
La scène de Beuvry avec les trois acteurs, c'est.
La séquence de France, après, repose sur des effets quand même. Éculé au possible, ah hop, ouais, je me cache, alors je fais semblant de changer de bébé, hop, je change.
Ouais, mais c'est la référence au film d'espionnage d'antan. Ça fonctionne vraiment, c'est un hommage quelque part.
Oui, mais lui, il a les solutions. Les solutions qu'il trouve sont pas.
Non,
mais
je suis
à l'époque.
Ouais, et puis ça tient, moi je trouve la scène, t'es sous pression pendant 40 minutes, puis tu te relâches parce qu'il y a une séquence un peu plus amusante avec son combo, puis hop, ça repart, et il arrive à. En fait, il arrive à créer un autre réalisateur que tu détestes, Tarantino, à son image.
On parlait de cinéma, là.
Cette scène m'a fait penser à la scène du bar dans Inglourious Basterds.
Ah, bah, voilà. Tu sais qu'il va se passer un truc.
Il retarde
l'échéance à chaque
fois. Voilà. Il gère la tension. Comme Tarantino dans Inglourious Basterds, il arrive à gérer la tension de manière élastique jusqu'au moment où ça pète. Et donc ça fait comme un élastique, ça fait ça. Ça s'étire, ça se. Et ça pète. Et parce c'est lui, pendant 30 minutes, il arrive.
Je cite dans sa mise en scène.
Mais non, mais Tarantino aussi.
Tarantino, c'est élastique plus que élastique.
Bon, pour revenir en tout cas sur le film, c'est que, bon, certes, on est sur un genre qui est quand même assez éculé. C'est clair que Kim Ji-hoon n'a pas révolutionné le genre.
Il cherche pas à
révolutionner le genre. Ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait un film hyper efficace. Et il fait un film hyper efficace dans lequel il y a quand même. Pas une, pas deux, pas trois, mais il y a quatre grandes scènes dans le film.
Et puis même là, il y a une scène.
Même si la scène finale est un peu. Enfin, il aurait pu terminer avant, et puis.
Je suis d'accord.
Il se fait un gros plaisir avec la grande musique classique dessus et tout. Elle est hyper bien foutue.
Là, tu ressens qu'il revient à ses premiers amours de cinéma opératique coréen. Et c'est peut-être un peu trop, on est d'accord. Mais
il pareil, aussi le film dans le roman national coréen. Le film devient très nationaliste quand même dans cette dernière partie. Alors je ne sais pas s'il se fait plaisir ou si c'est aussi un passage obligé. Mais du coup, c'est vrai que ça me semble un peu superflu de terminer le film comme ça.
Alors que traiter la culpabilité du personnage,
c'était plus intéressant.
J'ai découpé la parole.
Je suis d'accord avec toi, mais bon, après, voilà, c'est Kim Ji-hoon, c'est quand même un cinéaste d'action et il ne peut pas s'empêcher de terminer son méga climax. Par contre, s'il faut revenir en tout cas sur sa mise en scène, là il est vraiment impressionnant, c'est que c'est pour moi Kim Ji-hoon est le cinéaste du mouvement. Quoi.
Mais c'est ça.
En Corée, les filmations.
Tu retrouves ces mouvements.
C'est aussi bien le mouvement de la caméra, le mouvement des acteurs, le mouvement de la foule.
La scène.
Et la façon d'arriver à chorégraphier tout ça, c'est le meilleur. Impressionnant, quoi. La scène dans la gare, le moment où vraiment l'attention se concentre sur la jeune femme, elle dégaine, elle tire, et là tu as toute la
gestion de la foule, c'est juste incroyable. Faut la revoir parce que ça a montré dans toutes les école de cinéma.
D'ailleurs, il donne des cours de cinéma aux États-Unis pourvu que les réalisateurs Marvel aillent à ces cours Marvel.
Les réalisateurs et Marvel dans la même phrase, je ne comprends pas.
mais juste pour revenir à la scène d'intro qui est phénoménale, et là je crois qu'on est un peu tous
d'accord. Oui, on est d'accord. Non, mais je suis méchant sur le film. C'est juste que le film ne prend pas de risque.
C'est lui, pour moi, il a inventé certains mouvements de cinéma dans le cinéma d'action. Il a dans Le Bon, la Beauté et le Cinglé, par exemple, tu as une scène, la chaîne du marché fantôme.
Ça, oui.
Il a inventé des mouvements de caméra pour filmer la scène. Là, et on retrouve ces mouvements dès l'introduction de Heads of Shadows. C'est-à-dire qu'il,
il reprend.
Oui, mais en même temps, il a inventé certains mouvements du truc.
Et il a le droit de se renouveler.
J'aimerais bien dire que le film a quand même un charme des films de studio qui est assez intéressant avec les lumières.
Il y en a qui disent en carton pâte, blablabla, mais au final.
Non, mais ça.
Ah non, c'est super produit. À part les explosions.
Non, la dernière, surtout. Yes. Dommage de perdre une explosion numérique, c'est vrai, on est d'accord.
C'est qu'il utilise plein de moyens comme ça, qui sont un peu datés, par exemple le dézoom et les trucs comme ça. Et c'est très intéressant en fait, de voir utiliser ce film-là avec une mise en scène qui est hyper moderne d'un côté, avec des outils un peu rétro.
Non, le plus grave, on retrouve cette puissance du travelling qui donne des impulsions à certaines scènes. C'est assez impressionnant, je trouve.
On va maintenant conclure sur le festival, donner nos coups de cœur, donner nos attentes en termes de cinéma coréen et faire un petit bilan global.